Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous commentons l'actualité entre 11h et midi avec vos appels, vos réactions. 0826 300 300 aujourd'hui pour commenter l'actualité. Bertrand Soublet, bonjour.
Bonjour.
Ancien général, vice-président d'Objectif France, le mouvement politique de Rafik Smati. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise.
Bonjour.
Bonjour. Othmane Nasrou, président du groupe LR et indépendant au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour.
Bonjour.
Et Rachel Binas, bonjour. Vous
bonjour.
Êtes journaliste. Merci à vous d'être là. Donc, pas mal de sujets. Emmanuel Macron qui a regagné en popularité. Merci qui ? Merci Notre-Dame. Instrumentalisation de cet incendie. Est-ce qu'il a bien géré la catastrophe ? Est-ce qu'on en fait trop ? On a commencé à évoquer le sujet à 10h30, entre 10h et 11h, et vous avez été très nombreux à réagir pour nous dire ras-le-bol. Et puis ras-le-bol de l'instrumentalisation de l'émotion. Donc on attend vos réactions. On n'a pas eu le temps d'évoquer le sujet sur la reconstruction de Notre-Dame à l'identique, mais j'ai l'impression que vous saturez tous un petit peu sur les sujets, sur le sujet de Notre-Dame. Mais on peut en parler justement. Et puis Gilets jaunes et Samedi Noir, irez-vous manifester ? Est-ce que votre colère est toujours là ? On en parle avec vous. Donc on va passer d'abord à ce qui a retenu votre attention à tous, aux uns et aux autres. Bertrand Soublet, on va commencer avec vous.
Oui, ben écoutez, moi, c'était un moment d'exaspération.
Oui.
Hier, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt qui a annulé le licenciement d'une ingénieure qui portait le voile durant son travail. Elle avait été licenciée pour ça. Bon, au-delà de cet arrêt, c'est la confirmation de l'arrêt qui avait été rendu par la cour de cassation chambre plénière en juin 2014 et qui consacre la jurisprudence selon laquelle dans les entreprises privées, le principe de laïcité et de neutralité ne s'applique pas. Ce qui veut dire que dans toutes les entreprises qui ont une mission de service public ou une délégation de service public, le principe de laïcité et de neutralité s'applique, mais dans les entreprises privées, ça ne s'applique pas. Ce qui veut dire que dans notre pays, il y a aujourd'hui deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut dans le privé et il n'y a aucun moyen juridique pour contrer ces menées-là, notamment religieuses, et alors que dans le public, on peut le faire. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant et très grave, et qu'il n'y a aucune réaction de l'État parce que les magistrats, aujourd'hui, impriment une inflexion à notre société qui n'est pas voulue par le peuple français, et je trouve ça très grave.
Mais souvenez-vous d'Emmanuel Macron, quand il avait rencontré des femmes, il y avait une femme voilée qui lui disait « je trouve pas de boulot », etc. Il lui avait dit « allez dans le privé ». En gros, oui, c'est interdit dans l'administration, mais elle est dans le privé. Vous vous souvenez pas de cet échange qu'il avait eu ? Et c'est vrai que les chefs d'entreprise sont souvent très démunis. Il y a la loi, sauf que pour avoir discuté plusieurs fois avec des présidents de la HALD, qui n'existe plus, c'est très très compliqué pour de faire...
Les chefs d'entreprise sont très fragilisés, il y en a quelques-uns qui trouvent des solutions, notamment, je cite une entreprise qui est emblématique de ce point de vue-là, qui s'appelle Paprec, qui est une entreprise de recyclage, qui a trouvé un équilibre, mais elle a enfreint quand même la loi, parce que normalement, ce qu'elle a fait, elle n'a pas le droit de le faire. Voilà, c'est très compliqué pour les chefs d'entreprise.
Ouais. Rachel, ça touche un peu le même sujet,
similaire, mais on va changer de continent.
Oui, oui.
Ce sont les Québécois, un sujet dont on a peu parlé, je trouve, dans la presse française, mais un projet de loi qui mérite d'être salué, en tout cas observé, c'est celui du gouvernement québécois actuel qui a décidé de présenter donc ce projet de loi sur la laïcité qui interdit certains signes, enfin les signes religieux dits ostentatoires, à un certain nombre de fonctionnaires, pas tous. Un projet de loi assez modéré, parce qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire que les fonctionnaires qui ont déjà un signes religieux n'auront pas à l'enlever, mais qui provoque la colère du gouvernement canadien et notamment de Trudeau, qui voit dans la laïcité une ségrégation, en fait, ségrégation comparable aux États-Unis, à celle qu'il avait pu avoir dans les États-Unis, aux États-Unis. Et voilà un projet donc qui est soutenu par 74% des Québécois francophones, envers et contre tout, si je puis dire. Et on a l'impression un petit peu d'un village gaulois qui résiste à cette folie du multiculturalisme, puisque, je le rappelle, au Canada, on va très très loin sur ces questions-là. Ouais. On peut, par exemple, prêter son serment de citoyenneté en niqab. C'est quelque chose qui est même vu comme un gage d'ouverture d'esprit et de tolérance. Ouais. Donc, on va voir à quel point ceux qui se disent tolérants le sont à l'égard des Québécois. Mmh.
Réaction à ces deux sujets.
Mais pour continuer à aller dans le même sens, ça sera d'ailleurs un coup de gueule aussi, puisque là, on attend encore que le président de la République, à un moment ou à un autre, s'exprime sur ce sujet, on va dire sur ce sujet cultuel, sur le sujet de la laïcité, sur le sujet de la réforme ou non de la loi de 1905. Ça va bientôt faire deux ans qu'il
qu'on
est
attend,
là.
Qu'on attend qu'il s'exprime sur
et
le
on
sujet.
Et on n'a rien d'autre pour l'instant que son discours aux Bernardins, dont on a eu le verbatim, et qui là-dessus ne tranche pas du tout la question. On a besoin, même si le sujet est très compliqué, encore une fois, et il faut trouver le bon équilibre et la bonne solution, mais on a besoin qu'il s'exprime et qu'il nous dise quelque chose de fort sur ce sujet-là. Je crois qu'il est encore très attendu, mais au bout d'un moment, l'attente va laisser la place à une forme de frustration de la part d'un certain nombre d'élus en particulier, de tous bords d'ailleurs, mais qui sont attachés à la République et à la laïcité, qui aimeraient bien que le président de la République nous dise ce qu'il a en tête.
Oui. Dominico nous dit « Le voile n'enlève rien aux compétences d'une personne, ne pas l'embaucher, c'est l'isoler. Dans ma ville, la caissière du magasin Action porte un voile, elle fait aussi bien son job que les autres. » C'est pas la question,
non,
Dominico.
C'est pas du tout la question.
C'est pas du tout la question. Alexis Bachelet.
En fait, la question, c'est comment on traite ces sujets-là. Moi, je trouve qu'il y a quand même deux partis pris idéologiques aujourd'hui qui s'affrontent. Il y a un parti pris idéologique qu'on pourrait appeler multiculturaliste, qui est totalement, je dirais, celui des anglo-saxons, avec des choses qui, pour nous, nous paraissent totalement aberrantes, comme cette histoire de prêter serment avec un niqab, etc. Mais il y a un autre parti pris idéologique qui consiste à dire finalement la loi de 1905, elle ne va pas assez loin, c'est ce que le général Soublet a décrit, puisque la loi de 1905, je le rappelle, c'est la séparation des églises et de l'État. Et donc, c'est, on a construit, nous, une séparation qui fait qu'effectivement, dans le service public et dans l'État, et les instances déléguées, collectivités, etc., on ne peut pas avoir de signe ostentatoire. Donc pour moi, ça me convient parfaitement bien, puisque c'est ça qu'on réclamait historiquement, avec notre histoire, nous, la religion catholique, qui avait une emprise sur la société et le politique. On a gagné cette bataille de la séparation. Mais là, ce qu'on nous demande, en fait, et c'est pour moi le pendant du multiculturalisme, c'est d'aller plus loin dans l'autre sens. C'est-à-dire de dire, maintenant, il faut que la laïcité s'applique aussi dans la vie privée et dans la sphère privée.
Non,
et ça n'est plus...
Ce
que vous dites.
Pas dans la vie privée.
Pas dans la vie privée.
Mais c'est pas la chambre.
Si, c'est la sphère du privé.
C'est pas
le public.
La laïcité, c'est la sphère publique.
Non, c'est pas la sphère de l'État.
Mais l'emploi n'est pas la vie privée. Vous ne pouvez pas employer le mot de vie privée pour parler de l'entreprise.
Mais les règles de la vie dans l'entreprise ne sont pas des règles public, c'est pas les règles de l'État.
Sauf que
c'est pas la sphère publique.
Non, mais
l'entreprise, c'est la sphère privée ou c'est la sphère publique?
Oui, mais
c'est entre les deux.
C'est entre les deux. Mais ce qu'évoquait Bertrand Soublet, et ce qui est derrière ce voile, encore une fois, c'est ce que dénoncent ceux qui sont pour la laïcité. C'est autre chose qu'un simple fichu, encore une fois, et qu'il y a une volonté politique derrière, et qu'à chaque fois, on pousse un peu plus pour voir jusqu'où ça peut aller.
Parti pris idéologique comme le multiculturalisme, qui dit le voile représente plus que simplement une manifestation de croyance, c'est l'islam politique systématiquement, etc. C'est un parti pris idéologique. Je pense que si on interrogeait des musulmans eux-mêmes, y compris des femmes qui portent le voile, il y en a qui ne se sentent pas étendards de autre chose que de leur foi propre. Voilà.
Mais qu'elles ne portaient pas il y a 20 ans. C'est-à-dire que ce foulard qui, aujourd'hui...
Il y avait déjà des femmes voilées il y a 20 ans, mais on en parlait moins, c'est évident. Aujourd'hui,
il y a
un débat
qui
se cristallise autour de ce sujet-là.
Il n'y en a pas plus.
Mais il n'y en a pas plus. Honnêtement, c'est plus visible. C'est probablement oui. Il y a une manifestation plus visible des religions, mais ce n'est pas le propre d'ailleurs, c'est le propre de beaucoup de religions. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une logique effectivement de cristallisation. Je vous dis, il y a des gens qui sont pour la tolérance totale à l'anglo-saxonne. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent la laïcité
savez,
telle qu'elle est ne
des...
suffit plus.
Alors,
moi,
Rachel...
je prétends, je suis ni multiculturaliste, ni identitariste. Je suis pour la laïcité telle qu'elle est et telle qu'elle a été construite. Telle qu'elle a été construite dans un compromis. Pour ne pas rallumer une guerre de religion.
Ça ne veut rien dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des cas...
La loi de 1905, ça ne veut rien dire.
Je vais essayer en fait de parler. Je vous ai interrompu. J'aimerais bénéficier de la même courtoisie. Je crois qu'il y a plusieurs choses que vous dites et plusieurs choses que vous omettez également. C'est-à-dire que déjà, il y a peut-être quelque chose entre ce qu'on surnomme les laïcars, qui voudraient peut-être, selon certains, gommer les signes religieux de l'espace public entièrement, totalement, voire même peut-être vérifier. Je ne sais pas ce qui se passe dans les chambres. Je ne sais pas bien. Je les connais mal, c'est vrai. Mais vous me dites qu'ils existent. Je veux bien vous croire. c'est une chose, et ce que vous décrivez aussi, c'est-à-dire ces partisans du multiculturalisme où chaque signe religieux exactement pourrait s'exprimer. Il y a peut-être quelque chose entre les deux, parce que je ne crois pas qu'ici autour de la table on appartienne à un camp ou à un autre que vous venez de décrire. Mais c'est une chose, je ne sonde pas les âmes. Quant aux motivations d'une femme qui porte le foulard, en fait ça ne m'intéresse pas et ce n'est même pas le sujet. Mmh. C'est-à-dire est-ce qu'elle est libre, pas libre, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a un pays où, alors qui fait un petit peu exception dans le monde, où on a une spécificité, c'est celle de la laïcité. On considère que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on n'a pas envie de voir à quelle religion il appartient, mais on a envie de voir un individu, un citoyen français comme les autres, si je puis dire. Ouais. On n'a pas forcément envie que, comme ça peut se faire en Angleterre ou au Canada, une enseignante ou même une juge, hein, c'est le cas au Canada, porte un foulard. Mmh. Ça, alors, vous pouvez considérer... Alors, on est d'accord. Donc, la question, le problème, c'est que la laïcité...
Qui incarne l'autorité, donc ça...
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de problématiques qui se posent aujourd'hui à nous. Oui. Et il est difficile de savoir exactement comment la laïcité doit ou va y répondre. Je pense, par exemple, à la demande de menu halal. Qu'est-ce qu'on fait? On autorise, on n'autorise pas de menu sans porc, qui est en fait juste du bon sens, et dont certains maires voulaient revenir dessus. Est-ce qu'on
c'est
autorise...
déjà pas la même chose, hein.
Exactement, vous avez tout compris. C'est pas la même chose.
Il y a personne qui donne droit aujourd'hui au menu halal.
Allez, on va continuer le tour de table. Parfois, les sujets. J'aime bien ce moment parce que parfois des sujets prennent comme ça et c'est ce qui retient votre attention dans l'actualité. Haussmann, vous. Alors peut-être on va finir avec vous parce que ça nous permettra d'enchaîner sur Notre-Dame. Pardon, Alexis, vous votre sujet il est hors actu. Il est hors Notre-Dame. Près d'un Français sur deux favorable à la légalisation du cannabis. C'est votre combat.
Enfin, c'est ma conviction. Oui, c'est ma conviction que le système prohibitionniste à la française ne fonctionne pas. Voilà. Ou en tout cas est en défaillance puisqu'il y a une augmentation constante à la fois du nombre de consommateurs et des trafics de drogue qui pourrissent la vie de beaucoup de gens. Ouais. C'est le cas dans ma commune. Donc je vois bien les problèmes que ça génère, le petit trafic au quotidien lié à un marché. Voilà, c'est un marché. Donc moi, c'est vrai que pour le coup, je suis plutôt pour la régulation du marché. Et donc là, dire, en fait, la loi actuelle française dit c'est interdit, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Voilà, c'est ça la logique prohibitionniste. Bah, malheureusement, ça existe. Il y a de plus en plus de consommateurs. Souvent, c'est des consommateurs, d'ailleurs, qui ne sont pas dans les quartiers où les trafiquants, eux, vivent. Hein. Ils viennent d'un lieu d'à côté. Bon, moi, je ne vais pas balancer, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Neuilly, Courbevoie. C'est-à-dire des gens qui ont l'argent, qui fument régulièrement et qui viennent qui viennent dans le supermarché le plus proche, quoi. Voilà. Et donc, c'est pas eux qui subissent les nuisances. Et en plus,
avec
quand
4 millions de consommateurs, quand on discute
avec les policiers, absolument.
Oui, c'est généralisé. Partout. Oui, c'est partout.
Mais du coup, on ferme là-dessus. La loi,
vous auriez dit que chez moi à Trappes, il y a beaucoup de trafic de drogue. Vous m'auriez dit, vous ciblez du doigt un certain nombre de quartiers. Donc, voilà, essayons sur ce sujet-là de pas antagoniser les gens.
Ce qui est intéressant, c'est que dans l'opinion française, historiquement, c'est un sujet où il y a des crispations, c'est très difficile d'en débattre sans passion et d'expliquer ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc., comme sur d'autres sujets. Mais les mentalités évoluent, parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement on est à 45-55, 45 pour la légalisation, 55 contre, et c'est historiquement un niveau jamais atteint en France, pour l'opinion favorable à la légalisation. Donc je pense que sur cette question de société, comme sur d'autres, il faudra peut-être encore du temps pour que ça mûrisse, mais à un moment donné, on se rendra compte qu'on dépense beaucoup d'argent, que la police s'échine à combattre des trafiquants qui sont remplacés dès le lendemain par d'autres.
Mais qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que quand ce ne sera plus le cannabis, ce sera la cocaïne, l'héroïne?
Moi, je suis pour qu'on distingue les drogues dures et les drogues douces. Aujourd'hui, il n'y a pas de distinguo. Voilà. Y compris le cannabis thérapeutique, qui est utilisé quand même. Il y a des gens qui vous expliquent qu'ils utilisent presque en cachette du cannabis thérapeutique parce que ça leur fait du bien par rapport à certaines pathologies. Et en France, il y a une sorte d'omerta et de black.
Mais cet argument selon lequel, sous prétexte qu'on n'arrive pas à combattre aujourd'hui le trafic de drogue, il faudrait l'autoriser, me gêne un petit peu. Mm. On n'arrive pas à combattre non plus la violence en bande organisée. Il ne me semble pas que quelqu'un ici propose de réguler la criminalité en bande organisée.
C'est le même argument.
Et moi, je pense vraiment qu'on ne peut pas partir du constat de l'échec d'une politique publique pour décréter qu'elle n'a plus lieu d'être.
On peut l'interroger, on peut l'aménager.
Allez, on va se retrouver dans un instant et Haussmann vous fera votre coup de gueule. Vous voulez revenir sur la polémique sur les dons et puis on va parler de Notre-Dame et de votre ras-le-bol parce que vous êtes nombreux ce matin à nous dire ça suffit.
On a été émus.
Non, mais ça fait une semaine qu'on en parle. On a été émus, mais il y a un moment, ça suffit. Et le fait qu'Emmanuel Macron remonte dans les sondages, moi j'avoue que j'étais un petit peu étonnée. On en parlera peut-être avec Frédéric Dabi lundi, on va consacrer une émission aux sondages, parce que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, mais ça me sidère un petit peu. Voilà, on va en reparler dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors, Othman Nasrou, votre coup de gueule.
Ben écoutez, on a beaucoup parlé de Notre-Dame, oui. C'était important toute cette semaine. Mais moi, il y a un certain nombre de propos qui m'ont énormément choqué de la part d'un certain nombre d'élus, parfois de militants d'extrême-gauche, sur les dons d'un certain nombre de personnalités. On est allé sur des accusations, des procès d'intention. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça devient... Cette rhétorique de lutte des classes qu'un certain nombre de personnes nourrissent dans notre pays est insupportable. Quand on a des gens qui sont fortunés, qui donnent, c'est un problème. S'ils donnent pas, c'est un problème. S'ils donnent avec la réduction fiscale, c'est un problème. S'ils renoncent à la réduction fiscale, c'est aussi un problème. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on arrête cette détestation de l'argent des autres, qui fait que vraiment aujourd'hui, sur un sujet aussi important, on a donné l'impression parfois d'oublier aussi ce qui faisait aussi nos valeurs et notre cohésion sociale. Je le dis parce que notamment, il y a une militante de l'UNEF qui a tenu des propos indignes.
On en a parlé tous les jours.
On parlait tous les jours ici. Ben, j'aurais aimé être avec vous tous les jours parce que honnêtement, je pense qu'on ne condamnera jamais assez fortement.
Et que l'UNEF n'a pas condamné. Et que l'UNEF
mais
n'a pas condamné.
Mais c'est ça. Non, mais là, on a un mouvement qui est dans une dérive absolue. Mais voilà, cette détestation.
Ils n'ont pas dit condamné. Le mot condamné, je condamne, ça n'a pas été employé par l'UNEF. C'était nous ne sommes pas solidaires de. C'est pas nous condamnons ces propos.
Non, mais
l'UNEF, c'est honteux. C'est
donc voilà, on l'a dit hier, on va pas refaire
le
débat. Donc polémique, cette polémique, effectivement, vous trouvez sur les dons, n'avait pas lieu d'être. Mais Notre-Dame, donc là, vous êtes nombreux à nous dire, ras-le-bol, passons à autre chose, il y en a marre. Alors, est-ce qu'on en a trop fait? Est-ce qu'on en fait trop? On voit hier que le jeu qui veut gagner des millions n'a pas marché, qui était un appel, qui était un spécial don pour Notre-Dame. Qu'est-ce que vous en pensez, les uns et les autres? Est-ce que ça a été instrumentalisé politiquement? Et est-ce qu'au contraire, ça... Alors, je ne sais pas, non, vous faites la moue, oui, sur Rachel, Rachel Binas.
Alors, bien sûr, mais événement exceptionnel, réaction exceptionnelle, quelque part. Je pense qu'on aurait critiqué s'il n'y avait pas eu, justement, assez de réactions ou d'initiatives pour la reconstruction. Ensuite, quant aux récupérations politiques... oui, il y en a, et en fait, quelque part, elles continuent, elles vont encore continuer un certain temps, on l'a vu, autour d'une question, celle de... Alors, non pas des dons, hein, la question financière ayant été réglée, c'est celle, justement, de la reconstruction et du nouveau monde qui a envie d'occuper l'espace qui, maintenant, se libère sans aucune forme d'humilité, alors que ça s'imposerait, pour proposer l'irrespect de l'architecture. C'est-à-dire que ça fait écho un petit peu à une espèce d'acte inaugural de la pensée cartésienne, c'est-à-dire qu'on veut marquer pour dominer quelque part. Donc là, on nous propose une reconstruction de la flèche en nous expliquant qu'il faut qu'elle soit appropriée aux enjeux de notre temps. Personne ne sait clairement définir ce que ça signifie, comme souvent quand le gouvernement s'exprime. Et quelque part, on a l'impression de si je puis dire, je vais être un peu plus prosaïque que je ne l'ai été avec Descartes, mais de chiens qui voudraient uriner pour marquer le territoire. Mais je crois que c'est bien qu'aujourd'hui certaines choses échappent un petit peu à l'art contemporain et
là,
certaines
vous êtes
choses
sur le... Est-ce qu'on doit reconstruire à l'identique, donc
exactement, et là-dessus se fait la récupération politique où tout le monde veut marquer un petit peu de son idéologie quelque chose qui a fait l'émoi parce qu'il a rappelé l'âme aux Français, l'âme de Notre-Dame.
Oui. Bertrand Soublet.
Écoutez, moi je suis, pour tout vous dire, assez consterné de la manière dont notre pays traite des événements aussi importants que celui que nous avons vécu la semaine dernière, qui était l'incendie de Notre-Dame. Tout est sujet à polémique. Dès qu'il se passe quelque chose...
Mais est-ce que c'est la faute de l'État ?
Non, mais y compris pour un drame national, parce que là, c'est un drame national, tout de suite, on voit des polémiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec ceci, on n'est pas d'accord avec cela. Chacun essaie d'avoir le plus vite possible la bonne idée. Chacun... Mais prenons le temps du recul. Essayons d'être mesurés. Nous avons perdu le bon sens dans notre pays. Alors aujourd'hui, effectivement, j'entends qu'on va le reconstruire ou pas à l'identique. Il y a d'ailleurs, me semble-t-il, une pétition qui a été lancée par des hommes politiques pour la reconstruction à l'identique. Tout ça n'est pas très sérieux. Parce que franchement, tout le monde veut s'approprier quelque chose pour essayer d'être le premier à réagir et de retenir l'attention de l'opinion publique. C'est indécent, je le dis comme je le pense, c'est indécent. Alors, sur la reconstruction, moi j'ai pas d'avis, parce que je n'ai qu'un passé de général de gendarmerie, donc franchement, je serais bien mal placé pour en parler. Ceci dit, j'écoute, je regarde. Et il y a une charte qui a été faite en 1931 à Athènes, qui a été reprise en 1964 à Venise, dont se sert l'UNESCO sur la reconstruction des monuments historiques. Oui. Eh bien, regardons-la et voyons si nous sommes dans cette perspective-là ou pas, parce que manifestement, on est en train de prendre un chemin qui est assez différent de celui qui est recommandé par les spécialistes, notamment ceux de l'UNESCO.
Là, on mélange un petit peu les deux sujets, mais qui sont liés. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais posé la question, est-ce qu'il faut reconstruire Notre-Dame à l'identique ? Et c'est vrai que cette déclaration d'Emmanuel Macron de dire on va lancer un grand appel international aux architectes pour imaginer un nouveau projet, ça rentre dans peut-être cette ultra-communication. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Othmane Nasrouk.
Moi, je comprends effectivement que, vu l'émotion que ça a suscité, chacun y aille de son petit commentaire. Mais je pense que Bertrand Soubley a entièrement raison. Il y a un moment où il faut savoir raison garder. Sur cette histoire de reconstruction à l'identique, on peut tous avoir un avis. Je pense que c'est normal sur un événement, un bâtiment, un monument comme celui-là qui est autant porteur d'histoire, que chacun ait quand même aussi une appréciation personnelle. Après, ça part tout de suite dans tous les sens, avec toutes les pétitions. Mais il faut comprendre aussi qu'un certain nombre d'architectes aussi sont très vite partis sur des volontés de gestes architecturaux, dont parfois, sur un certain nombre d'exemples, on était en droit légitimement de s'inquiéter, qui fait qu'effectivement, la volonté de garder aussi Notre-Dame à l'identique, et moi c'est plutôt mon inclinaison subjective, particulière, personnelle, eh bien, peut aussi s'exprimer. Mais il faut qu'on arrête effectivement les politiques en permanence, tout le temps, au gré de l'actualité, dès qu'il y a un sujet qui arrive sur la table. Ça fait quand même 5 mois maintenant qu'on ne parle plus des sujets de fond. Ouais. Entre les gilets jaunes, évidemment, Notre-Dame, c'était indispensable.
Les gilets jaunes, c'est un peu les sujets de fond qui sont...
Oui, mais on n'avance plus. Ouais. Mais il y a un moment où il y a quand même des réformes à faire, des lois à adopter, etc. Il faudrait qu'au moment, la démocratie reprenne ses droits.
On y revient dans un instant. Vous n'êtes pas censuré, Alexis Bachelet. Vous aurez la parole.
J'en ai bien peur.
Dans quelques instants, c'est un complot. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On est en direct jusqu'à midi, 0826 300 300. On a René en ligne avec nous. Bonjour René.
Bonjour. Bonjour messieurs
bonjour.
Et mesdames.
Oui.
Oui, alors bon ben voilà ma petite participation à votre discussion.
Oui.
La flèche de l'église
de la cathédrale. Oui.
Et représente quoi à vos yeux? C'est un symbole, rien d'autre. Vous savez, ces immenses bâtiments qui ont été construits à une époque à la gloire de quelqu'un, ça a été édifié à la gloire de Dieu ou à la gloire de la religion? C'est les questions que je me pose, moi, tout ça. Je rentre pas dans les détails de laïcité, etc., comme tout à l'heure j'ai entendu, ça n'a rien à voir, la séparation de l'État et de l'Église. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Le bâtiment n'a rien à voir là-dedans. Alors donc, on visite une cathédrale, pourquoi faire? Pour admirer le travail que nos anciens ont fait ou pour aller prier? Je crois qu'on visite plus pour visiter que pour prier. Voyez-vous, la Notre-Dame, je suis passé devant des centaines de fois, étant parisien. Je crois que je suis jamais rentré dedans.
Mais oui.
Voilà. Pour moi, ça représente un monument de Paris.
Ouais.
Mais rien de plus. Alors, faisons-la à l'identique, puisque c'est le doigt qui montre le ciel, n'est-ce pas? Cette flèche qui rappelle aux gens que le ciel existe. Et si vous voulez y aller, il faut se tenir normalement. C'est donc un symbole.
Donc pour vous, c'est un symbole, donc il faut la reconstruire à l'identique. Juste, je vous donne la parole à Alexis après, mais Bertrand Soubley, il y a un auditeur qui demande que vous apportiez une précision sur ce que vous évoquiez sur ce traité européen. Ce traité européen impose de reconstruire les monuments...
Non, c'est une charte.
Charte de l'UNESCO.
C'est une charte de l'UNESCO, et elle n'a pas force de traité.
Elle
contrairement à ce que j'entends dire,
donc on peut faire ce qu'on veut.
Pour une fois, l'Europe n'y
peut
rien.
En gros, on peut faire ce qu'on veut.
Oui, mais on peut pas non plus toujours faire ce qu'on veut contre l'avis des spécialistes.
D'accord. Alors, Alexis Bachelet.
Oui. Excusez-moi. Oui. Alors d'abord, je voudrais faire une parenthèse sur ce qu'a dit Othmane Nasrouk, parce que ça m'a fait sourire. Il n'y a pas que de dangereux gauchistes qui se sont étonnés des montants de dons. Il y a aussi des gens proches du Secours catholique qui disait, nous, dis donc, pour s'occuper des gens qui sont dans la rue, on aimerait bien avoir ces chiffres-là. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une inflation de donations. Il y a aussi des stratégies de communication de grands groupes économiques qui font aussi de la com.
Ça me fait marrer quand on parle de la com. Parce qu'en quoi... Oui, non, mais je voudrais que vous précisiez la com. Ça veut dire quoi, faire de la com?
Non, mais ça veut dire que Arnaud Pinault, c'est quand même un vieux couple, que l'un donne et puis le lendemain, l'autre donne. Et puis après, il y en a d'autres qui se sont dit, mais nous aussi, on va dire, et on va faire savoir.
Mais
très bien. Mais moi, attendez, moi, je suis pas là pour dire c'est pas bien. qui je suis d'ailleurs. Si j'avais les moyens de le faire, je le ferais. Mais après, vous pouvez pas, sans aller jusqu'à des polémiques un peu idiotes en disant les riches, c'est salaud, etc. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais je suis désolé. Bon, mais non, en démocratie, sur les mais c'est pas mon propos. Vous vous dites alors, non. Il y a aussi des gens qui se disent non. Mais il y a aussi des gens qui se disent, dis donc, ça fait des sacrées sommes. Et ça pourrait aussi être utile de donner pour d'autres causes. Voilà.
Mais ça, c'est quelque légitime. Chose qui...
Sauf moi, je ne juge pas.
Sauf qu'on répète depuis une semaine que ces gens-là ont des fondations, qu'ils aident les
oui,
qu'ils aident
très bien.
Sans forcément que ça sache, etc. etc. Je
mais reconnaissons qu'il y a des chiffres
mais
qui donnent le tournis. Voilà,
sûr.
C'est tout.
Bien
une
sûr.
Fois qu'on a dit ça, on est dans le mouvement des gilets jaunes.
Bien
les gens
sûr.
Se battent pour du pouvoir d'achat, ils se battent pour finir les fins de mois. Et il y a un événement exceptionnel, une réaction exceptionnelle et des chiffres qui donnent le tournis.
Bien sûr, mais c'est vrai qu'en un claquement de doigts, sortir 200 millions.
C'est un discours qui est fréquent, c'est-à-dire qu'on a vu lors de la vague migratoire des gens dire, plutôt à droite, vous voyez, on arrive à mobiliser de l'argent pour les migrants, mais pas pour nos propres SDF. Là, aujourd'hui,
ça,
on nous dit, vous voyez, on mobilise pour Notre-Dame et pour telle ou telle cause. C'est, il n'y a pas d'effet de vase communicant. Et quelque part, on ne peut pas, même si elle revêt quelque chose de sacré, voilà, cette cathédrale, elle ne peut pas régler tous les problèmes. Elle n'est pas si magique que ça.
Exactement.
Et elle cristallise aujourd'hui un certain nombre de tensions.
Ouais, complètement.
Et en revanche, là où je suis pour le coup plus critique et plus perplexe, c'est effectivement sur la communication au plus haut niveau de l'État, notamment autour de la problématique de la reconstruction.
Ouais.
Moi, je le dis très clairement, je pense que ça n'est pas au président de la République, ni même à n'importe quel ministre ou n'importe quel dirigeant politique, de dire combien de temps doivent durer les travaux, quel type d'architecture on doit faire. Et je suis personnellement halluciné de voir qu'il y a un concours de réaction, c'est à celui qui va dégainer et tweeter le plus rapidement pour sortir, et c'est exactement ce que disait le général Soublet, il a entièrement raison. On est quand même sur une cathédrale qui a plus de 800 ans, qui s'est construite en plus de 150 ans, et là, alors c'est vraiment le choc des époques, quoi, alors que nos ancêtres qu'on respecte et qu'on admire, et finalement la cathédrale c'est aussi un héritage qui vient de loin, qui a mis du temps à se constituer, donc c'est aussi pour ça, c'est notre patrimoine, c'est pour ça que c'est notre patrimoine, parce que ça vient de loin et il a fallu du temps pour le construire. Et là, on a des gens qui en quelques secondes, à coup de tweet, à coup de déclaration dans les médias, s'arrogent le monopole d'une décision, d'une analyse, alors qu'ils ont même pas les compétences. Enfin, je suis désolé, quand le président Macron dit il va en 5 ans, je veux que ça soit reconstruit, c'est absolument délirant. Et en plus, en disant peut-être aussi avec un geste architectural, mais attendez, on n'a même pas fait passer les assureurs, les experts, c'est encore fumant. Je veux dire, quand même, si on pouvait demander à nos politiques de reprendre un tout petit peu le sens de l'histoire, du temps long, et de pas effectivement se précipiter pour faire des déclarations, pour être effectivement le premier à bénéficier de l'émotion suscitée par l'événement, mais c'est ça qu'il faut demander, c'est ça qu'il faut réclamer. Laissons le temps de faire les expertises, de faire d'écouter des architectes, de faire des concours, des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont déjà reconstruit des cathédrales ou des monuments historiques ailleurs. Ne soyons pas dans la déclaration politique et la récupération à court terme. Quoi.
Est-ce que je peux engueuler un auditeur qui me dit, Valérie, j'aimerais que vous creviez de faim un jour, vous parleriez autrement de tous ces monuments. C'est stupide, votre réflexion est absolument stupide et abjecte, je me permets de vous le dire, ça n'a strictement rien à voir. Il y a des gens extrêmement pauvres qui ont été touchés par ce qui s'est passé à Notre-Dame. Ça n'a strictement...
Et qui ont pu faire des dons.
Ça n'a strictement rien à voir et je trouve votre remarque déplacé et stupide. Vous voulez répondre à Alexis Bachelet ?
Oui, parce que je pense que Alexis Bachelet a raison quand il dit ça, bien entendu, et il soulève un sujet qui est extrêmement important et qui aujourd'hui domine la vie publique de notre pays. C'est que on a l'impression que les paroles, dès qu'elles sont prononcées, deviennent réalité. Pardon, mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose que tout de suite ça doit devenir une réalité. Et nous sommes dans un monde politique public aujourd'hui qui est dans cette mouvance-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit quelque chose, c'est la réalité, voilà, ça s'impose comme ça. Eh bien non, la vie politique, c'est pas exactement ça. Ça nécessite une argumentation, ça nécessite des mises en place, des politiques publiques. Et c'est pas parce qu'on l'a dit que ça se fait. Il va falloir qu'on change de paradigme, parce que je crois
sinon,
que depuis...
Sinon, notre démocratie va se fracasser là-dessus.
Sinon... Notre démocratie va en effet se fracasser et je pense qu'elle s'est déjà à moitié fracassée.
Elle est déjà fragilisée.
Ouais. On a en ligne avec nous Claudine. Bonjour Claudine.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
On vous écoute.
Oui, ben moi je trouve aussi, j'étais un peu d'accord avec votre précédent interlocuteur parce que disait que c'était un petit peu inconcevable d'entendre M. Macron qui dise, sans prendre de recul, là, par contre, hein, oh oui, dans 5 ans, ça sera reconstruit, etc. Je veux dire, il n'a jamais tenu une truelle, hein, M. Macron, pour savoir un petit peu comment se passe une construction. On a beau dire, je veux dire, il faut attendre déjà... j'entendais des experts qui parlaient sur le sujet.
Et qui ne sont même pas d'accord entre eux.
Il va d'abord falloir plusieurs mois avant de savoir si tout est consolidé, si les vues ne vont pas se casser la figure, si voilà, il faut déjà faire un état des lieux complet et ça va prendre plusieurs
mois, voire des années.
Mais bien sûr, parce qu'il faut d'abord que des pierres sèchent, donc ça va pas se faire tout seul, hein, il faut quand même du temps. Moi, je trouve que c'est un petit peu rageant de voir Monsieur Macron qui dit en plus oui, il n'y a pas d'argent magique, hein, dit-il. Hein. Là quand même, il y a eu un petit coup de baguette magique quand même pour trouver un milliard d'un coup d'un seul, quoi. C'est formidable. Moi, alors, attention, hein. Je me dis que qu'il est riche, c'est absolument pas un problème. C'est pas mon cas, hein. Néanmoins, je trouve que on trouve un milliard comme ça sous le sabot d'un cheval en l'espace de 24 heures. Et quand on demande une hausse de SMIG, là par contre, c'est c'est pas possible, quoi. Là, ça va pas le faire. Donc, tout ça, c'est un petit peu, si vous voulez.
Non, mais ça a créé, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ce que disait Alexis Bachet, c'est vrai que c'est 200 millions, 300 millions, 900 millions qui sont arrivés d'un claquement de doigts. On comprend la réaction des Français qui souffrent et qui ne comprennent pas que cet argent arrive aussi facilement. Guy également est en ligne avec nous et voulait réagir. Guy, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour.
On vous écoute.
Bien, écoutez, moi, d'abord, tout à l'heure, en intervenant, vous disiez qu'il ne comprenait pas que tout était sujet à polémique. Peut-être, mais c'est une discussion, il n'y a pas que des polémiques. Par contre, ce vaste coup de com' de Macron... Il le réalise pourquoi ? Parce qu'il y a des commentateurs qui rentrent là-dedans. Je vais vous dire, il ne faut pas fermer les yeux. C'est bien ce qui se passe sur la reconstruction de la cathédrale et tout ça. Mais vous savez, quand les gens qui gagnent 1 500 euros, tout ça, voient qu'on peut filer tous ces millions, quelque part c'est indécent. Ils auraient pu le faire, mais ce n'est pas la peine de le dire, ce n'est pas la peine d'en faire de la communication. Ouvrons les yeux, regardons cette fracture sociale que nous avons. C'est ça qu'il faut voir. Après, c'est vrai, tout le monde est touché par Notre-Dame. Je suis le premier à être touché à cette destruction. Il va falloir reconstruire. Après, les polémiques, dire s'il faut le reconstruire à l'identique, autre chose. Mais écoutez, il y a d'abord une charte de l'UNESCO, il y a des organismes comme les Bâtiments de France. Vous ne faites pas ce que vous voulez, et encore heureux. Mais après, dire si Macron, il doit agir, oui, mais il ne faut pas en faire la communication. On a fait la communication parce que c'est les journalistes, c'est les commentateurs. Il fait une intervention, c'est fini. Maintenant, les commentateurs auraient pu dire, je pense qu'il y a d'autres problèmes en France, des problèmes de fond. Il faut ouvrir les yeux, actuellement,
c'était un événement assez exceptionnel, hors norme, donc c'était aussi normal qu'on en parle. Une réaction de quelqu'un sur Twitter, Eurasienne, qui dit « C'est incroyable, s'agissant d'une cathédrale symbole de la religion catholique, on se pose la question de savoir si on restaure à l'identique, s'il s'agissait d'une mosquée, est-ce que vous poseriez la même question ?» Voilà, je laisse ça à votre appréciation, ça a été liké et retweeté. On a pas mal de réactions sur, la communication d'Emmanuel Macron, mais qui visiblement fonctionne, puisque 3 points en plus dans les sondages, alors, est-ce que c'est étonnant ou pas ?
C'est un sondage.
Alors, la question exacte, c'était est-ce qu'il a été jugé à la hauteur ? Oui, par plus de 6 Français sur 10, selon un sondage BVA.
Non, mais il y a un moment d'unité nationale, suite à un événement hors norme, qui a touché tous les Français. Et tous les Français attendaient effectivement... qu'on leur dise, ce qui s'est passé, c'est très grave, on est tous dans l'émotion. Deux, on fera tout ce qu'il faut pour rebâtir, parce qu'on est un peuple de bâtisseurs, on a une longue histoire, et Notre-Dame, c'est aussi l'incarnation de notre histoire, de notre patrimoine, et on ne va pas le laisser tomber. Bon, donc ça, c'est sur ce message-là, Macron, il devrait même avoir 9 Français sur 10. Bon, c'est étonnant qu'il y en ait 6.
Oui, oui.
Mais on est dans une parenthèse On est dans une parenthèse. Je rappelle quand même qu'il devait... Alors moi, je ne parle pas du tout de complot, mais il se trouve que son annonce de fin de grand débat a été percutée par cet événement historique. Ouais. Bon. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Il y a toujours une attente de la conclusion des cahiers de doléances, des réunions publiques qui sont tenues, de toutes les contributions. Et il y a une attente des Français sur le fond. Donc, elle est décalée et c'est légitime. Moi, je l'avais même demandé. J'avais dit, c'est pas normal que le président maintienne son intervention alors que Notre-Dame était en train de brûler. Ça, c'était complètement surréaliste.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui le disent.
Hein, il a eu raison. Non, mais là, je lui donne les communicants de l'Élysée et le président. Ils ont eu raison de sortir de cette situation et de communiquer. Mais maintenant. Il faut qu'il réponde quand même. Il faut qu'il réponde aux Français et qu'il donne sa vision de la suite de son quinquennat.
Tintin nous dit, ce gouvernement utilise toutes les ficelles pour ne pas répondre à des attentes bien légitimes sur le quotidien de millions de pauvres et le pouvoir d'achat. Les exemples sont nombreux avec la complicité de certains médias.
Ouais. Oui, voilà, je pense que là, effectivement, il a gagné des points dans les sondages qu'il aurait probablement perdu s'il avait communiqué sur les conclusions du grand débat. Ouais. Donc, entre les deux, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Mais bon, sa communication, effectivement, elle est bonne, mais elle est classique. Elle est classique. C'est le rassemblement, c'est le remerciement à tous ceux qui ont participé à la lutte contre l'incendie. D'ailleurs, remercions les pompiers qui ont fait un travail absolument gigantesque et parfois au péril de leur vie, y compris les forces de sécurité, les policiers qui aussi ont risqué pas mal sur ce sujet-là. Donc là, tout le monde est d'accord. Et puis ensuite, quand on dit que la cathédrale Notre-Dame, c'est notre patrimoine et qu'il faut que nous rassemblions pour reconstruire ce qui a été détruit, franchement, personne ne peut contester ça. Et si les gens le contestent, c'est que véritablement, on est dans une société dans laquelle il faut faire attention parce que si on réagit en permanence, en fonction de l'affection qu'on a pour un tel ou pour un tel, et qu'on est tout le temps dans l'émotion, y compris dans la réaction et non pas dans la raison, encore une fois, notre démocratie est en danger. Elle l'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle l'est, mais ne continuons pas sur ce chemin. Parce que, et malheureusement, les politiques alimentent cette manière de fonctionner et je pense qu'il faut que nous en sortions. Je pensais qu'avec Emmanuel Macron, on aurait le nouveau monde. C'est la pire version de l'ancien monde.
Allez, on se retrouve dans un instant. On continue de débattre sur Sud Radio avec vous. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, avec Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France, Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise, Otman Nasrou, président du groupe LR et indépendant au Conseil régional d'Île-de-France, et Rachel Binaz, vous êtes journaliste à Causeur, L'Express, Marianne, plusieurs journaux. Nous parlions donc de ces trois points repris par Emmanuel Macron dans les sondages. Rachel Binaz, vous l'expliquez comment ?
Pas surprenant face au drame national, c'est ce qu'on appelle, ce que les chercheurs appellent l'effet de rassemblement. On l'a vu en France, par exemple, avec François Hollande au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Il était à 19 points, il est passé à 40. On peut citer aussi, un fameux exemple, après les deux tours, George W. Bush, qui est passé en 5 jours d'une cote de popularité de 51% à 86. Ouais. Donc c'est quelque chose de complètement logique. Maintenant, ce n'est pas forcément durable.
Non, et ça peut être dangereux. On attend l'effet waouh.
Oui, et on ne peut pas capitaliser uniquement dessus. Et on ne peut pas non plus s'échapper à la fois de la campagne des européennes ou d'un certain nombre d'enjeux, de problématiques qui se posent aujourd'hui en France, en se focalisant sur ce drame. Est-ce qu'il a bien géré ? Alors certes, il y a eu des déclarations, des tweets, ils étaient nécessaires, ça reste quand même insuffisant. Je crois que, est-ce qu'il a bien géré Notre-Dame ? On le verra en fonction de la reconstruction. Ans. Exactement, 5 ans. Le plus important étant bien sûr de ne pas céder à des intérêts mercantiles ou à une espèce de pression du tourisme de masse ou encore à cette idée qu'avant la transmission, il faudrait faire passer l'innovation avant tout.
Ces trois points, Otman.
Essentiellement, on est d'accord tous pour dire, je crois que c'est peut-être une bouffée d'oxygène pour lui, mais que ça ne peut pas être structurel, que ça ne peut pas être durable et que bon, donc ça n'a pas d'importance en soi. Moi, je vais le défendre un petit peu, une fois n'est pas coutume, le président de la République, juste pour dire que j'ai l'impression quand même que dans cette séquence, quoi qu'il ait pu dire, on lui serait quand même tombé dessus. Donc bon, il a dit ce qu'il avait à dire. On peut dire qu'il essaie de récupérer ou pas. La réalité, c'est qu'il ne faut pas là-dessus, comme sur le débat national, qu'il joue à nouveau la montre. Il fallait essentiellement, je lui reproche rien de tout ce qu'il a pu dire, déclarer, etc. là-dessus. Les 5 ans, pas les 5 ans, peu importe, parce que de toute façon, on aurait tous trouvé autre chose, quelque chose à y redire. Maintenant, il est toujours attendu sur le fond. Alexis Bachelet le disait tout à l'heure. Pour le coup, je suis d'accord. C'est pas souvent le cas, mais là, je suis d'accord. Et en l'occurrence, il faut qu'il nous dise maintenant ce qu'il compte faire. Et c'est là où on va voir si ces trois points valent quelque chose ou pas, parce que pour l'instant, c'est du vent.
Alors, il y a eu eu des fuites, on l'a évoqué hier. Il va certainement s'exprimer mardi, on imagine. Il laisse passer le lundi de Pâques et s'exprimer mardi. Est-ce qu'il est en train, à votre avis, de retravailler la copie parce que c'est un petit peu faiblard ce qu'on a pu entendre depuis 2-3 jours ?
Non, ouais, moi, je ne fais pas de procès d'intention. Ouais. J'attends avec. Mais je ne vais pas rentrer dans le jeu de critiquer avant.
Ouais. Non, mais là, on a quelques éléments.
Alors, on a quelques éléments.
Sur supprimer l'ENA, l'école de la magistrature, revaloriser les pensions jusqu'à 2000 euros, les pensions des retraités.
C'est intéressant.
Les petites retraites.
Oui, c'est très intéressant. L'affaire de l'ENA, par exemple, est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une école, j'allais dire, connue de tout le monde, malheureusement pas dans le bon sens, mais c'est quand même une des richesses de notre pays d'avoir une école qui permet de donner une formation à hauts fonctionnaires français. Ce qu'on a fait de l'ENA ces dernières années, et la manière dont on utilise les énarques ou les emplois qu'ils tiennent, pose problème, parce qu'on est arrivé dans un esprit de caste. Ouais. Et mettre des énarques à la tête de grandes entreprises, mettre des énarques qui font, il y a 60 ou 70% d'hommes politiques de haut niveau qui sont des énarques. Et on voit la situation dans laquelle on est. Donc ce n'est pas la question de l'ENA, en fait. C'est la question de ce qu'on a fait des énarques qui sont sortis de cette école. L'ENA, pourquoi détruire l'ENA ? L'ENA ne donne pas satisfaction, probablement, dans la conception et dans la pédagogie et dans le résultat final. Mais plutôt que de détruire, améliorons, essayons de voir ce qu'on peut améliorer. Bon. C'est incroyable que des gens qui sortent de cette école aient envie de la détruire. Moi, je sors d'une école qui s'appelle Saint-Cyr, je l'ai faite il y a 40 ans, j'ai pas du tout envie de la détruire, alors même qu'elle a aussi des défauts, mais elle a plein de vertus. Donc, il faut arrêter cette manière de raisonner les choses en se disant, pour faire autre chose, il faut détruire. Non ? Améliorons.
Mais je ne voulais pas qu'on reparte sur le débat de l'ENA, c'était globalement sur les annonces d'Emmanuel Macron. En tout cas, les Gilets jaunes, eux, ont décidé d'aller manifester samedi. Je voulais qu'on en dise quelques mots, puisque visiblement, il y a des messages qui sont envoyés par la préfecture et qui annoncent une mobilisation assez forte et assez violente avec des Black Blocs qui ont prévu de venir. On a Thierry en ligne avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Est-ce que vous irez manifester ?
Non, je n'irai pas manifester. Bon, je suis de tout cœur avec les Gilets jaunes, pas pour les casseurs, bien sûr. Mais bon, parce que je travaille. Voilà, je suis obligé de continuer à travailler. J'ai 62 ans. Ouais. J'ai pris ma retraite, mais bon, j'ai que 950 euros de retraite par mois. Donc,
comme beaucoup de Français qui sont obligés d'avoir un deuxième boulot.
Et je voulais rajouter là-dessus, justement, quand on parle d'indexation pour les retraites, là, sur l'inflation, je vois pas vraiment ce que ça peut donner. Si y a 1% d'inflation sur mon salaire, ça va me donner 9,50 euros. Je crois pas que ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup de pouvoir d'achat,
Donc vous comprenez ceux qui iront manifester samedi?
Ah, tout à fait, oui, mais c'est dommage, c'est vrai qu'il y ait ces casseurs qui brisent tout, là, parce que je pense que le peuple a besoin d'une réponse, c'est vrai qu'elle se fait attendre. Bon, cette histoire de Notre-Dame, ça, c'est un drame, c'est sûr. Ça va coûter de l'argent. Bon, que les riches donnent, je ne suis pas contre. Mmh. Au contraire, moi, je peux pas donner. C'est une bonne chose. Mais, après, bon,
vous dites que vous attendez des réponses.
Ah oui, moi, parce que là, je vais être obligé de continuer de travailler tant que je peux, parce que si je m'arrête de travailler, je vais retomber à 950 euros. Je prends une mutuelle, il me reste 850 euros, et puis je paye ma taxe d'habitation. J'entendais une dame ce matin qui disait qu'on avait des aides. Moi, j'ai rien, moi, rien du tout. Ouais. Je sais pas où c'est qu'elle a vu ça.
Et vous faites quoi comme deuxième boulot?
Je ramasse des personnes à mobilité réduite.
D'accord. Oui, bah c'est effectivement souvent dans le transport. Merci Thierry de nous avoir appelé.
Un mot très rapide sur la réindexation, parce que monsieur, votre auditeur disait que ça ne allait pas lui donner du pouvoir d'achat, mais ça allait lui permettre quand même de ne pas en perdre. Je dis ça, c'est important, parce que c'est quand même une vraie arnaque intellectuelle que de fixer des pensions qui ne sont pas indexées sur l'inflation, dans laquelle l'État, lui, bénéficie à travers des recettes fiscales qui bénéficient un petit peu aussi de l'inflation. Donc la réindexation des pensions, c'est quand même un vrai sujet. Parce que sinon, ça veut dire qu'on affiche un niveau de pension, etc. Et que derrière,
pourquoi pas toutes les pensions, c'est la question.
Mais je pense que l'État devrait s'astreindre à cette discipline-là et derrière faire des économies sur la dépense publique, sur des tas de choses qu'il fait mal, qu'il ne devrait plus faire lui-même, etc. Je pense que c'est la bonne approche. Mm-hmm. Maintenant, sur la journée de demain, honnêtement, il y a un moment où on commence à se demander la capacité, non pas de ce gouvernement, parce que le sujet là, on n'est plus dans la politique politicienne, mais de l'État à assurer la sécurité. Enfin, mais qui sont ces centaines ou ces milliers de black blocs qu'on nous annonce à chaque fois, dont visiblement on n'arrive pas à venir à bout.
Il y a une loi anti-casseur là, normalement.
Oui, qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel sur l'interdiction de manifester, ce qui d'ailleurs, à mon sens, c'est un peu dommage. En tout cas, parce qu'on devrait pouvoir empêcher les casseurs de venir se rendre
sans
à des manifestations.
Interdire les manifestations.
Exactement. Maintenant, il faut quand même qu'à un bout d'un moment, on arrête, on mette des tas de nuire, on condamne, on incarcère les gens qui se comportent mal dans ce pays. On a vraiment l'impression qu'on n'y arrive pas, et ça, c'est préoccupant.
Ouais.
Non, mais moi, j'espère que le mouvement Gilets jaunes va se poursuivre, mais sans, évidemment, les casseurs. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu de la casse, ça a été souvent annoncé, anticipé par les médias, mais on n'a pas le sentiment, forcément, que les pouvoirs publics ont réussi à anticiper ce qui se passe dans les rues. Donc je pense que là, j'espère qu'on ne va pas revoir les images qu'on a vues sur les Champs-Élysées ou sur d'autres, d'autres villes ou d'autres. Enfin, parce que beaucoup de villes ont été touchées aussi. Mais bon, je pense que le mouvement Gilets jaunes, lui, il va perdurer. Parce que on est déjà à la 23e semaine.
Et on sent qu'il y a une remobilisation.
Et il peut y avoir une remobilisation parce qu'on est au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de mai. Il y a le 1er mai, c'est le mois des revendications sociales. C'est un moment aussi où, voilà, c'est les beaux jours qui reviennent. Donc, il y a des gens qui sortaient plus
les
dans la rue.
Les européennes.
Et les européennes aussi.
Dans le viseur.
Qui sont dans le viseur. Et donc, je pense qu'on est à un des moments de vérité de façon du quinquennat. Bon. Parce que si la réponse qui est apportée par le président de la République n'est pas à la hauteur, on peut avoir effectivement une relance du mouvement des Gilets jaunes.
Moi, je suis pour que les Français puissent s'exprimer pacifiquement et sans violence. Ouais. Et lorsqu'il y a des violences, je suis pour une extrême fermeté, ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Et ça date même déjà du 1er mai de l'année dernière.
Merci à tous les quatre. Très bon week-end. Nous serons là lundi à 11h pour parler des sondages. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Postez vos questions, vos réactions. On posera les questions à nos invités pour essayer de comprendre comment on fait les sondages. Est-ce qu'il faut les croire? Est-ce qu'ils sont parfois biaisés? Beaucoup, beaucoup de questions. Je sais que c'est un sujet qui vous fait tous beaucoup réagir. Très bon week-end, à lundi.